explorer de nouveaux mondes étranges.
Vous avez des boussoles, vous avez des cartes?
Oxygénez-vous, profitez-en.
Le temps d'un bivouac.
Pris par l'émotion devant un paysage en pleine nature, pour immortaliser le spectacle, nous choisissons plus spontanément l'appareil photo que le micro. Comme si l'image constituait l'essentiel de ce moment. Comme si l'ambiance sonore ne contribuait pas à la magie de l'instant. Pourtant, parfois, pour apprécier pleinement un paysage, il faut savoir fermer les yeux et ouvrir grand les oreilles. Fernand Desroussen le sait mieux que personne. Passionné par les sons de nature depuis plus de 30 ans, il arpente les espaces sauvages de la planète, microphone à la main. Loin du brouhaha de nos sociétés, il capte les chants, les stridulations, les crépitements, les feulements et autres bruissements du monde. Ce qui était une passion au début est devenu un vrai métier dont il a inventé le nom audio-naturaliste. Patiemment, Fernand Desroussen enregistre les vocalises d'un oiseau rare en Himalaya, le rugissement d'un lion au Kenya, l'étonnant coassement de rascasses en mer Méditerranée ou encore les impressionnants grondements de l'Etna en Sicile. Il partage ensuite les ambiances sonores qu'il collecte sur son site naturophonia.com, mais aussi à travers des CD, des expositions ou des podcasts. Nous allons avoir un aperçu de son travail cet après-midi. Fernand Desroussen nous emmène écouter la grande symphonie de la nature. Claire Tesser a préparé cette émission. Stéphanie Texier la réalise avec à la technique aujourd'hui Rémi Sistiaga. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Je suis comme un chef d'orchestre. J'ai installé trois systèmes d'enregistrement pour enregistrer en trois endroits différents. Le chant de la rivière. En fait, le chant de la rivière vient des grenouilles. J'ai rarement eu une telle ambiance. Là, toutes les conditions sont réunies. Pas de vent, silence. Voilà, moi je recherche des instants comme cela. Des instants où tout s'installe, comme si on était dans une salle de concert. Il y a un fond sonore qui correspond un peu aux percussions, aux rythmiques de son des grenouilles. Et là-dessus vient s'implanter quelques oiseaux. La huppe faciée, la cisticole, la pouscarde. Le pigeon ramier qui est un peu plus grave, le pigeon ramier. Donc chacun a son espace sonore dédié. La grande symphonie du vivant. Ah, je ferme les yeux parce que c'est trop beau.
Bonjour Fernand Desroussen.
Bonjour.
C'est vous que l'on entendait à l'instant. Vous étiez en Espagne, les caméras de France 2 vous avaient suivi sur le terrain. Et ce sentiment dont vous parlez d'assister à un moment parfait où tout est en place, vous l'éprouvez souvent lorsque vous partez enregistrer les sons de nature ?
Alors, l'éprouver souvent, peut-être pas, mais c'est ce que je recherche avant tout. C'est effectivement l'équilibre de l'écoute, la recherche ultime du beau moment, de l'instant rêvé, de l'instant espéré que les animaux peuvent nous offrir par l'écoute et par leur chant, par leur cri, par leur sonorité. Je me retrouve dans des moments comme ça d'émotion, de pure émotion. C'est ce que je recherche, l'émotion.
L'émotion. Comment vous en êtes venu au son pour capter cette émotion? Pourquoi vous n'avez pas choisi, comme beaucoup d'autres, la photo, le dessin? Pourquoi c'est le son que vous avez retenu?
Alors, je m'y suis essayé.
Ah oui.
C'est-à-dire, j'ai essayé,
ça n'a
effectivement.
Ça n'a pas marché.
Vu les résultats en dessin, j'ai vite arrêté.
Oui.
En photo, il y a beaucoup déjà de pratiquants, il y a 30-40 ans de ça. Et puis, la révélation est venue un jour d'un petit dictaphone que j'avais dans la poche et qui m'a permis d'enregistrer un premier oiseau. Une rousse reliure de Reeds, je m'en rappelle bien. Et ce jour-là, j'ai dit, c'est ça, quoi. Je me suis repassé le soir la bande une fois, deux fois, trois fois, à tel point que je l'ai usé, parce que c'était des cassettes en ce temps-là. Et voilà, j'avais trouvé ma voix dans l'écoute.
C'était en 1985, cette rencontre
exactement.
Une rousse reliure turdoïde. Et pour les auditeurs qui se demandent, mais à quoi ressemble le chant d'une rousse reliure turdoïde, ça ressemble à ça. Alors celui-là, ça n'est pas celui que vous avez enregistré avec le dictaphone, non, non, mais c'est vous qui avez enregistré le son que oui. l'on entend actuellement. Quel plaisir vous avez éprouvé à vous le passer en boucle, à le réécouter, ce chant de Rousserolles.
Ben, c'était la magie de retrouver l'instant de la captation. C'est-à-dire que presque plus que la photo, je trouve que le son vous apporte ça, cette dimension en fait qui manque parfois à la photo, que l'on peut aussi retrouver un peu en vidéo, même si on est dans un cadre en vidéo ouais. ou en photo, on est dans un portrait, vous voyez. Alors qu'avec le son, vous écoutez, vous êtes dans un espace, ouais. vous revenez dans le 360 degrés. Et là, vous vous replongez en fait dans le lieu, enfin dans le moment. Et ça, c'est vraiment formidable.
C'est ce qui fait qu'à la radio, l'écran est infini, en fait.
Exactement, hein. il n'y a pas besoin d'écran.
Enregistrer, ça a d'abord été une passion. En 85, c'était en amateur que vous faisiez ça. Et puis, c'est devenu votre métier, hein, ce métier d'audio-naturaliste dont vous avez vous-même inventé le nom. Comment vous définiriez ce métier que vous avez un peu taillé à votre mesure ?
Alors, c'est relativement simple. En fait, quand j'ai commencé à enregistrer, bah, très vite, j'étais collectionneur.
Ouais.
C'est-à-dire, j'ai collectionné les sons, les uns derrière les autres, toutes les espèces. J'ai parcouru la France pour enregistrer tous les oiseaux de France et tout ça. Mais très vite, très très vite, il y a autre chose qui apparaît. C'est-à-dire, quand vous enregistrez un chant d'oiseau, bah, derrière, il y a un paysage. Il peut y avoir la mer, il peut y avoir le vent, il peut y avoir un mammifère. Et tout ça fait partie de ce que j'appelle maintenant la grande symphonie du vivant. Et en fait, je me suis laissé avoir par cette passion du son qui m'a entraîné donc à faire ensuite une énorme collection de sons de la nature, de purs sons de la nature. Et très très vite, bon, j'ai fait des rencontres qui m'ont permis de valoriser un petit peu ce métier-là pour me permettre ensuite de voyager et d'acheter le matériel qui m'était nécessaire.
Ouais. Alors parmi les pionniers de votre discipline, il y a un ornithologue que vous connaissez, Jean-Claude Rocher. Alors, oui. C'est la génération précédente. Il n'était pas audio-naturaliste, puisque le mot n'existait pas encore. Il était bioacousticien, ornithologue, passionné de sons de nature. Il l'est toujours. Le voici, Jean-Claude Rocher, évoquant ses rencontres sonores avec les oiseaux en 1998 sur France Culture.
Quand je rencontre une grive musicienne, pour moi, ce n'est pas la grive musicienne, Turdus musicus, une étiquette dessus dans un placard. Pour moi, c'est un individu, c'est un être qui est unique au monde, qui a son chant, car chaque grive musicienne a un chant différent. Et pour moi, c'est la rencontre avec un être. Et cet être est un musicien. Et par conséquent, je suis passionné. Et si cette grive chante bien, parce qu'il y en a qui chantent très bien, d'autres qui chantent pas du tout bien. Et si cette grive chante bien, je vais l'enregistrer pendant une heure, pendant deux heures, pour essayer d'avoir tout son répertoire, de savoir tout ce qu'elle peut me dire. Et ensuite, je vais peut-être même lui repasser son chant, ce qui va l'exciter davantage. Elle va croire que c'est un autre mâle qui vient sur son territoire. Et elle va encore me sortir des airs qu'elle sort pour les occasions rares. Et donc, je vais aller jusqu'au bout de son répertoire. Donc, moi, j'ai affaire, non pas à un nom scientifique avec une étiquette, mais j'ai affaire à un être vivant qui est musicien. Et c'est une rencontre, en fait. C'est une rencontre vivante pour moi.
Le chant d'une grive musicienne, enregistré par Jean-Claude Rocher. Vous êtes d'accord avec lui, Fernand Desroussen, ce sont des individus et pas des espèces que vous enregistrez ?
Totalement, je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, dans une discussion que j'ai eue avec lui, parce que je l'ai rencontré plusieurs fois, il se définissait comme ornithomélologiste.
Ah, c'est pas mal !
Vous voyez, c'est pour se dire que... il était il est toujours très axé sur le chant des oiseaux, alors que moi, j'ai diversifié, fait, mon cadre. Mais il a tout à fait raison. Ce sont des êtres vivants que l'on enregistre. Ce n'est pas que de la matière. Si j'allais sur le terrain pour enregistrer le son pour le son, pour en faire ensuite une composition électroacoustique ou une performance ou quelque chose, je dirais ça ne m'intéresserait pas vraiment. Moi, j'aime la rencontre. Mmh. J'aime la rencontre avec cet être vivant et Jean le ressentait pareil. Et, c'est vrai que j'ai beaucoup appris en écoutant toute son œuvre.
Mmh. Et vous êtes prêt à aller très loin pour faire ces rencontres, au Québec, par exemple. Au Québec, vous avez enregistré ce chant. Alors, la famille des grives est grande, Là, c'est une griffe des bois que vous avez enregistrée. On a affaire à une véritable virtuose. Pour vous, Fernand Desroussen, c'est une quête lorsque vous partez à la recherche de ces virtuoses jusqu'au bout du monde. Là, c'est au Québec, mais vous êtes allé bien au-delà, évidemment.
Oui, oui. J'ai compté il n'y a pas très longtemps. J'ai fait une 60aine de voyages à travers le monde pour collecter les sons de la nature. C'est vrai que je pars toujours avec un objectif, quand même. J'ai ma petite liste d'animaux mélodieux ou de paysages à réaliser ou des choses comme ça. Et là, dans le cadre de cette grive des bois, c'était presque inespéré parce qu'on est à la limite de son territoire en Amérique du Nord. Et par chance, ça a été le dernier jour du voyage à côté de Montréal. Je suis tombé dans un bois où il y en avait une qui chantait. Et là, je vous avoue que c'était formidable. Après tout ce que j'avais enregistré déjà depuis 3 semaines.
Avec quelle oreille vous appréciez ce chant? Est-ce que vous pensez avoir une oreille de musicien, d'artiste? Est-ce que vous avez une oreille plus performante que le commun des mortels?
On l'entraîne, son oreille. Ouais. C'est évident que là, j'ai maintenant dépassé bien la 60aine et j'entends encore très très bien le chant des oiseaux, des insectes et tout ça. Donc c'est un entraînement permanent. Mais je dirais que c'est un langage pour moi. C'est-à-dire que beaucoup d'humains connaissent plusieurs langues, l'anglais, l'espagnol, le chinois, enfin tout ce qu'on veut. C'est exactement pareil pour moi. C'est-à-dire quand je me promène dans un bois, une forêt, dans un paysage, j'entends une langue, une langue parlée, qui est la langue nature. Et chaque strophe, chaque phrase, chaque note me dit quelque chose sur le comportement de l'animal qui est à côté de moi, ou discret, ou des fois très visible. C'est un langage, c'est vraiment un langage.
C'est un langage qui nous dit aussi où on se trouve, hein. C'est très évocateur, le cri des oiseaux. Tout de suite, ça nous installe immédiatement dans un paysage, dans une ambiance. Alors ça, c'est un enregistrement que vous avez réalisé. Tout de suite, on visualise le bord de mer. Voilà, on est où exactement?
Alors, nous sommes au Cap Fréhel, sur le rocher de la Fauconnière. C'est assez précis. Tout au bout du Cap Fréhel. Et là, il y a une énorme... Il y a 200-300 goélands qui nichent sur ce rocher, parce qu'il est séparé de la côte par un espèce de ravin. Donc là, ils sont tranquilles pour nicher. Et c'est un paradis pour mes micros, parce que je les surplombe, je suis juste au-dessus, et ça me permet d'avoir un espace très, très beau à enregistrer.
Fernand Desroussen, ce sont les oiseaux et leurs chants qui vous ont donné envie d'écouter la nature et de l'enregistrer. Mais vous êtes allé bien au-delà. Vous avez enregistré sur tous les continents des sons d'animaux en tout genre, de végétaux aussi, on en aura un exemple. Vous avez également capté les bruissements géologiques ou climatiques de notre planète. Cet après-midi, Fernand Desroussen nous emmène écouter la grande symphonie de la nature. Le temps d'un bivouac sur France Inter.
Au printemps de ma vie, je quitte mon père. La ville attend les petits rats des champs. Une jolie fermière me dit: où vas-tu? Monte derrière avec les laitues. Les pieds dans le ciel, chez les hirondelles. Nous filons doux et la route est à nous. Petit, la vie est belle à l'école buissonnière. Au bal des oiseaux près de la rivière. Les prés sont verts. Quel âge as-tu, toi? De pain. La campagne se prête à tout, mais la ville pas du tout. Nous irons danser au bal des oiseaux près de la rivière. Da 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 da
Et c'était le bal des oiseaux, bien sûr, de Thomas Fersen sur France Inter dans le temps d'un bivouac. Et notre promenade sonore avec notre invité, l'audio-naturaliste Fernand Desroussen, se poursuit. C'est vous qui avez enregistré ce chant que nous entendons.
Exactement, ouais.
Nous sommes dans une forêt à Madagascar, plus exactement à l'est de Madagascar. Décrivez-nous les lieux avant de nous dire quel est l'animal qui chante.
Alors nous sommes dans une forêt tropicale de pente. Il y a une petite montagne qui n'est pas très très haute, ça monte à 1000 mètres à peine. Et là, une énorme diversité d'arbres, d'essences d'arbres. Mais là, je suis arrivé en saison sèche pour exactement enregistrer cet animal. L'Indri de Madagascar, donc un lémurien, ce n'est pas un singe, hein, c'est une famille complètement à part et que l'on trouve en grande partie à Madagascar. C'est l'un des ténors de la planète, avec les gibbons, avec les singes hurleurs.
Mais il y a quelque chose de très émouvant hein, à l'entendre. On se dit que la forêt ne serait pas la même sans ce chant. D'ailleurs, je crois que pour les Malgaches, dans les légendes, on parle de l'esprit de la forêt, hein, du sage de la forêt. C'est évidemment très évocateur.
Oh, ça va même au-delà de ça, parce qu'ils estiment que c'est aussi les ancêtres qui sont représentés dans la voix de ces animaux. Et donc, ils sont très protégés et très respectés, malgré que la forêt diminue à vitesse grand V à Madagascar.
Et donc, c'est ce chant qui a déclenché cette envie de voyage jusque sur cette île. Et il vous arrive aussi de partir avec des sortes de commandes. Par exemple, très récemment, vous êtes parti au Kenya dans le but d'enregistrer des ambiances sonores nocturnes. Là, c'était pour une exposition. Je crois on vous avait passé cette commande-là.
C'est pour une exposition qui aura lieu de septembre 2022 à janvier 2023, qui va s'appeler Musique animale, et qui aura lieu à la Philharmonie de Paris. Et donc, on m'a commandé trois ambiances nocturnes, dont celle-là sur la savane au Kenya. Donc là, c'est un petit concert de batraciens le soir. Il y a plusieurs espèces.
Et au Kenya, toujours à la nuit tombée, vous avez aussi enregistré ça. Alors là, c'est un son puissant.
Oui, oui.
C'est un lion.
Exactement.
Alors, il rugit, mais on a l'impression qu'il y a une sorte de démarrage au rugissement, là.
Alors, c'était un très vieux pépère.
Hein. Ah oui, c'est pour ça.
Oui, on sent aussi déjà dans ses rugissements qu'il a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup rugi. Et donc, c'est une grande chance parce qu'il était à moins de 10 mètres de moi. Enfin, j'étais dans un véhicule. Hein. On n'a pas le droit de sortir des véhicules pour ce genre de circonstances. Et il m'a fait l'énorme plaisir de pousser ses rugissements incroyable, qui faisait trembler la voiture.
Ouais. Mais vous êtes à 10 mètres avec un micro qui vous permet de zoomer précisément sur ce lion qui est en train de rugir.
C'est un peu délicat de dire zoomer parce que donc déjà c'est deux microphones, c'est-à-dire que c'est en stéréo, c'est comme si on écoutait avec nos deux oreilles. Et puis après, je prendrais le parallèle avec la photographie pour faire comprendre aux auditeurs comment on enregistre un petit peu la nature. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des téléobjectifs, vous avez des grands angles en photo. Là, c'est pareil. Je vais avoir deux micros pour enregistrer le paysage. Je vais avoir un micro canon très précis pour enregistrer l'animal qui est devant moi, souvent un insecte ou un batterien. Parce que c'est on peut l'approcher, ou alors une parabole, une espèce de grande coupole qui enregistre là pour le coup en zoom, hein, qui donne un peu de puissance au son, et ça principalement pour les oiseaux. Ouais. Donc on a des systèmes différents, comme en photographie.
On vous a mis d'ailleurs en photo avec vos différents micros sur la page Instagram du temps d'un bivouac pour les auditeurs qui pourraient voir à quoi ressemble votre matériel. Alors les animaux sont une source, on s'en doute, inépuisable hein, pour l'audio-naturaliste que vous êtes, Fernand Desroussen. Qu'en est-il des végétaux ? Est-ce que ça peut être intéressant d'enregistrer une plante ?
Oui. Notamment, la conséquence du vent. On dit que le vent fait du bruit, mais en fait, ce qui fait du bruit, c'est le support qui arrête le vent. Et donc, on peut reconnaître un platane, par exemple.
L'oreille.
À l'oreille, oui, le bruit cartonné d'un platane. La douceur fine d'un bouleau, avec ses petits cliquetis. Ouais. Ou les pins, ça fait un son un peu feutré, donc assez différent. Et moi, il m'arrive des fois de fermer les yeux dans le paysage et de me dire, tiens, là, il y a effectivement un peuplier d'Italie. Là, j'ouvre les yeux, c'est un peu un entraînement. Mais il y en a bien d'autres, hein, le bruit du blé, toujours dans le vent. Et aussi, les genêts qui éclatent l'été. C'est assez étonnant.
Ouais. Alors nous, on a un son que vous avez capté en Équateur, dans la forêt d'Équateur. On va l'entendre.
Oui, alors c'était un arbre en fructification, en fait, qui avait les fruits qui étaient totalement mûrs et qui tombaient comme une pluie, en fait. C'est incroyable. Il n'y avait pas un animal, il n'y avait pas de vent, rien du tout. Et ça tombait comme ça. Mmh. Il pleuvait des fruits. Mmh. Et je vois encore un pauvre gars qui essaye de passer en mobilette dessus et qui a donné un grand coup d'accélérateur parce qu'il s'est fait bombarder en passant sous l'arbre.
Mmh. C'est un son que vous avez tout de suite identifié, vous avez tout de suite compris sa provenance?
Non, justement, ça, j'avais pas du tout l'habitude. Et alors que j'étais là pour des toucans qui chantaient comme des fous, très vite j'ai entendu ce son-là, j'ai dévié, je suis vite allé comprendre ce qui se passait et j'ai adoré, quoi. Enfin, c'est formidable.
Tous les sons captent votre attention, vous intéressent, et même quand il n'y a plus aucun arbre, plus aucun animal, rien que du vent et du sable peuvent faire votre bonheur d'audio-naturaliste, Fernand Deroussen. Je vous téléporte dans le désert de Mauritanie, sur la dune de Zerga, un matin de février.
Comme vous pouvez l'entendre, les éléments se déchaînent. Là, je suis contre une dune de sable, d'un beau sable orangé, qui fait 50-60 mètres de haut. Et il y a un vent qui se déchaîne, terrible. À chaque bourrasque, devant, il y a une espèce de petit brouillard de sable qui s'élève et qui parcourt la dune, tout en... Ça fait comme un petit rideau, un petit voile de brume. Mais cette brume, c'est du sable. C'est magnifique. Il pétille à la surface de la dune.
On l'entend pétiller avec vous, ce sable. C'est un extrait de votre podcast Écoutez Nature, dans lequel vous invitez les auditeurs à découvrir le monde par les oreilles. Vous semblez presque ému par ces sons ténus de sable qui crépitent.
Ah, totalement. Totalement ému, parce que se retrouver dans de telles circonstances et dans un cadre mais magnifique. C'est de la roche noire sur la gauche. Je le décris. Ouais. La dune qui remonte toute cette roche et ce vent qui balaye et qui projette ces grains, ces minuscules grains. Chaque grain, on a l'impression qu'il fait un petit bruit, qui pétille, qui cliquette. Et je suis là avec mes micros, juste à la limite de la dune, pour capter toutes ces subtilités. Oui, là, c'est un moment merveilleux. Et là, il n'y a pas un oiseau, vous voyez.
Il n'y a pas un animal. Oiseau, hein. Et en vous entendant sur cette dune en plein désert, on réalise aussi à quel point c'est un métier de solitaire. Il faut aimer être seul pour faire le métier que vous faites, Fernand Deroussen.
Ah, totalement. Oui. Souvent, dans le cinéma animalier, on me demande des sons et tout ça. Et plusieurs fois, on m'a demandé d'accompagner des équipes et tout. Je dis non, ça, c'est impossible. Ouais. Parce que les gens font tellement de bruit et tout. Oui, c'est un métier de solitaire. Mais on aime ça, enfin. Ouais. Mais je crois que c'est un peu le cas de beaucoup de naturalistes. C'est-à-dire même des photographes naturalistes, ou des dessinateurs naturalistes que je connais, et je me revendique de cette famille-là, hein, des purs naturalistes, des gens de terrain qui aiment le contact avec l'animal, avec le paysage. On cherche tous, en fait, cette quête de l'absolue beauté, ouais. Quoi, en fait.
De l'absolue beauté, de l'émotion pure, et finalement, une des plus grandes émotions que vous avez eues, ce n'est pas avec le vivant lors de vos enregistrements, c'est sur les flancs d'un volcan.
Oui, oui, c'est au sommet de l'Etna. J'ai encore le souvenir de cette nuit passée assis bon, avec mes microphones, avec autorisation hein, bien sûr, et à chaque fois qu'il y avait une explosion sommitale, j'étais à 300-400 mètres, hein, donc de temps en temps il y a un peu des scories qui tombaient autour, mais le sommet du volcan bougeait. C'est-à-dire que ça tremblait. Alors, des moments, je me disais, mais est-ce que je ne veux pas être emporté dans le cratère ? Bon, enfin, j'étais en sécurité quand même. Mmh. Mais quelle impression, quoi ! Vous faites lien avec la Terre, là, complètement. Hein.
Et vous avez enregistré ce souffle sur l'Etna. Qu'est-ce qu'on entend, là ?
Là, on entend, en fait, un espèce de feu entre deux coulées de lave qui roulent dans un petit ornito, enfin c'est un cratère, c'est-à-dire qu'il y a deux rouleaux de lave qui tournent les uns sur les autres, et au milieu, il y a une flamme de gaz bleu, parce que c'est de nuit, qui s'élève et qui crache, qui jette cette propulsion, cette puissance, c'est incroyable. La lave est en rouge, et ce jet bleu au milieu qui monte au ciel et qui s'élève, là on aimerait presque avoir de l'image.
Après le vent du désert et le feu du volcan, voici un autre son de la Terre que vous avez capté. Hein. Ce n'est pas un être vivant qui produit ce son. Alors, il a quelque chose de très mystérieux, hein, ce son, presque une pulsation, on sent presque la vie dans ce son. Où est-ce que vous avez enregistré ça ?
Alors ça, j'ai enregistré ça dans le Jura, et il faut que ce soit en plein hiver. Il faut vraiment qu'il fasse très très froid, et avec des conditions très particulières. C'est-à-dire que c'est un lac gelé, en fait, qui craque, et il y a une condition très très particulière qui fait que le soleil... Enfin, il y a une falaise à côté de ce lac, et le soleil se lève à l'est, donc monte, et à midi, il arrive sur le lac, alors qu'auparavant, le lac était complètement à l'ombre. Et à cette heure de la journée où le soleil est au plus chaud, il vient taper sur le lac, et là, ça fait tout exploser, quoi. Ça fait craquer, ça fait murmurer, ça fait ronronner, c'est incroyable, c'est des sons extraordinaires.
Il vous arrive parfois avec vos micros d'avoir l'impression un peu d'écouter la Terre vivre comme un médecin avec son stéthoscope entendrait les organes de notre corps.
Mais c'est en permanence. Ouais. C'est en permanence, j'entends la Terre vivre de partout. Même ici à Paris, quand je vais au Bois de Vincennes, j'entends ce langage des animaux, tous ces animaux qui se répondent, qui cohabitent, l'écureuil qui vient embêter les perruches. Non, c'est en permanence, j'écoute parler la Terre. Et je dis toujours comme ça que, pour le moment, la Terre est une planète qui chante et on n'en connaît pas d'autres.
Ouais. Oui, il faut en prendre soin. On va continuer d'ouvrir grand nos oreilles sur la nature et vous allez, Fernand Desroussen, nous emmener explorer quelques paysages sonores de nos régions dans un instant. Vous êtes bien sur France Inter, le temps d'un bivouac.
On se caresse, on se dévore, on s'aimait trop, on s'aime encore. Un mot de plus, un mot de trop, et deux amants sur le carreau. Une année impossible que cette année-là, ce virus invisible entre toi et moi. Il y a ceux qui rêvaient de dictature militaire, ces connards amnésiques ont foutu en colère. Juste toi et moi. Toi et moi. On se caresse, on se dévore, on s'aimait trop, on s'aime encore. Plus de 20 ans et des alarmes, pas toujours pas baisser les armes. Un vent solaire qui déchire le ciel noir, dont la foule anonyme arrive en flux tendu. Les gueules de prophètes, jusqu'alors inconnues, brillent ton cerveau, sont tes pires cauchemars. Juste toi et moi. Pas toujours facile, toi et moi, toujours indivisible, toi et moi. Si le sensible vit encore, on se caresse, on se dévore. Une année impossible, cette année-là, ce virus invisible entre toi et moi. On se caresse, on se dévore, on s'aime trop, on s'aime encore.
C'était Bernard Lavilliers qui chantait Toi et moi.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Cela fait 8 jours que le brame a vraiment bien commencé. On a eu un petit échantillonnage la semaine dernière. Et hier soir, j'étais assez pessimiste en posant les microphones, car vraiment, il ne se passait strictement rien à 20h. Et en fait, durant la nuit, beaucoup de choses se sont accélérées, dont plusieurs combats, combats de cerfs.
Extrait du podcast Écoutez Nature de notre invité, l'audionaturaliste Fernand Desroussen. Vous avez fait cet enregistrement à l'automne 2019, quelque part dans la Drôme. Mm-hmm. Ce que l'on entend,
ce sont les bois des cerfs qui combattent. Ça a un bruit très très particulier parce que c'est de l'os, hein. Donc ça fait pas comme du bois, des branches classiques. Ça s'entrechoque. Enfin, c'est deux mâles qui combattent et qui se tapent les bois, qui s'entremêlent. Mais ça dure pas très très longtemps. Enfin, ça peut durer jusqu'à 10 minutes quand même, des fois ouais. 10 minutes. Et très très vite, le dominant chasse l'autre. Et puis après, c'est le brame qui prend le dessus, quoi.
Ces combats n'ont lieu qu'en automne. Vous qui habitez dans la Drôme, c'est un rendez-vous annuel que vous avez d'aller enregistrer ces cerfs bramés.
Ah, totalement, oui. Ouais. C'est vrai que dès le 20 septembre, ça titille, quoi. On commence à préparer les micros et tout ça. Et c'est parti jusqu'au 10 octobre à peu près. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ambiance dans ces grandes forêts du Haut-Diwa, du pied du Vercors, avec le brame du cerf.
Un autre rendez-vous annuel riche en sons que vous avez, c'est le retour du printemps. Et au printemps 2020, comme nous tous, vous avez été confrontés au premier confinement, mais vous l'avez vécu assez différemment de la plupart d'entre nous. Vous avez vécu une expérience assez inimaginable pour un audio-naturaliste.
Ben oui, parce que contrairement à beaucoup de gens, moi j'ai été confiné, comme tout le monde, ouais. Avec mon kilomètre autour de la maison, mais en forêt. C'est-à-dire que j'habite en Drôme, j'ai été m'installer il y a 15 ans dans le fin fond de la Drôme pour vivre ma passion, pour vivre du son nature en permanence. Et là, ce confinement m'a offert des circonstances inimaginables. C'est-à-dire c'était impensable de croire un jour pouvoir avoir un mois sans un avion dans le ciel et un mois à suivre la nature sans un bruit d'homme, dans le silence total des hommes.
Alors les humains ont arrêté de faire du bruit et vous avez enregistré des moments de pure nature. Nous allons entendre quelques bribes de vos enregistrements et puis vous allez nous dire au fur et à mesure ce que l'on entend.
Une petite chouette avec un troglodyte. Un petit merleplastron très loin. Chevreuil.
Ça, c'est l'aboiement du chevreuil.
C'est l'aboiement du chevreuil, oui. Ils sont deux, ils sont deux.
Ils se répondent.
Ils s'engueulent, simplement. Le pic noir, donc le cri du pic noir sur son territoire, donc qui appelle une femelle. Bien sûr, le bruit de la mitrailleuse du pic noir, c'est le tambourinage. Donc c'est son vrai chant.
C'est quoi ce petit...
Alors doucement, une chouette de tengmalme s'installe. Tengmalme boréal, pour être précis. Donc ça l'a tombé du jour, là. Ah bah oui. Et oui. Circonstances extraordinaires.
Ça, vous l'avez enregistré depuis chez vous?
C'est à un kilomètre, oui, à peine. C'est dans le kilomètre qui nous était imparti. Oui,
et c'était des loups, donc que l'on
des
entendait.
Loups, ouais, une meute de loups. Donc il y a une meute qui vit autour dans la vallée. Oui.
Alors vous avez édité tout un CD en deux volumes intitulé Le silence des hommes, avec tous ces sons de la naissance du printemps enregistrés il y a près de 2 ans maintenant, lors du premier confinement. 3 mois seul avec les sons de nature. Le CD est aux éditions Chiff Chaff. Selon vous, pendant ces 3 mois, les animaux ont fait plus de bruit du fait qu'on leur laissait l'espace sonore, ou ils font toujours autant de bruit mais on ne sait plus les entendre et les écouter?
Non, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on ne les écoute plus. Par contre, je me suis rendu compte très très vite que la qualité des enregistrements était d'une propreté que je n'avais jamais atteinte. C'est-à-dire que les avions qui parcourent la planète, en fait, laissent une espèce de réminiscence de sons de basse fréquence dans le ciel, qui font que même quand ils ne sont pas là, cette nappe sonore reste. Et là, ça avait disparu.
Ouais.
Et j'ai écouté, enregistré et redécouvert les chants d'oiseaux d'une autre façon grâce à ça. C'est incroyable.
Mais il y a quand même des lieux où vous arrivez à vous affranchir de ces bruits de notre société. Nous avons eu l'automne, le printemps dans la Drôme. Allons écouter les murmures de l'hiver en Camargue. Mm-hmm. Pour planter le décor, Fernand Desroussen, nous sommes en janvier. Une nuit éclairée d'une lune presque pleine, et vous avez passé la nuit dans ce lieu, pas un souffle de vent.
Ce qui est très rare.
En Camargue, oui. C'est une chance, là,
oui.
Tout autour, des oiseaux. Alors qu'est-ce
qu'on entend? Donc là, on est avec les flamants roses, voilà. Puis des petits limicoles derrière, des petits chevaliers. Là, on comprend bien la pureté du son, c'est assez extraordinaire. Ah, c'est à Vossette derrière, oui, Vossette. Plus un courlis très loin. Vous voyez, ça, tout me parle, tout me cause. Ah, c'est à Vossette. Alors là, c'est pas du tout mes micros qui leur faisaient peur ou quoi que ce soit. C'était le passage d'un renard, en fait, le long de la digue.
Vous vous souvenez de tout ça, précisément?
C'est toute la magie et le miracle du son. Je trouve que ça vous apporte beaucoup plus le souvenir qu'une simple photo ou même qu'une vidéo. Ouais. Je trouve que le son vous plonge totalement, en fait, dans vos souvenirs. Ouais. Ou alors, vous évoque des moments particuliers.
Le son permet aussi d'explorer des mondes qui nous sont beaucoup moins familiers. Je mets cette fois-ci au défi les auditeurs de deviner ce que vous avez enregistré ici.
Des indices?
Alors on est sous l'eau.
On est en Bretagne.
Et on est en Bretagne. Dites-nous ce que vous avez enregistré.
Dans les rochers, tout le monde connaît les mares temporaires à marée basse. Et là, à l'aide d'un hydrophone, donc un microphone adapté à l'enregistrement sous l'eau, j'enregistre des patelles, donc les chapeaux chinois, qui broutent le corail. Ouais,
c'est-à-dire que ces petits chapeaux chinois qu'on voit fixés aux rochers, ils broutent le...
Voilà, c'est ça. Et ils ont une râpe dans la bouche, en fait, et qui, à chaque coup de râpe, fait un petit bruit comme ça. Donc on appelle ça des microsons, des hydrosons, puisque là c'est sous l'eau. C'est assez particulier, mais ça, comme je dis toujours, nos micros vont là où nos oreilles ne peuvent pas aller.
Et oui.
Et donc là, c'est vraiment un exemple typique.
Puisque nous sommes sous l'eau, restons-y. Nous sommes dans une zone maritime protégée face au Pradet, dans le Var. Vous avez effectué ces enregistrements, là encore, évidemment, avec un hydrophone. Et là, tendez l'oreille, on entend des tout petits crépitements. Qu'est-ce qui fait ce bruit, Fernand Derossen ?
Alors là, c'est toute la microfaune aquatique, des crevettes pistolets, les oursins, tout un tas de petits animaux en fait, qui ont de la chitine, qui ont des crustacés, des choses comme ça, qui en bougeant font du bruit.
Et puis là, au loin, un étrange coassement se fait entendre. Nous sommes pourtant toujours sous l'eau. C'est un son qui a pendant longtemps intrigué et les scientifiques et les plongeurs. Mmh. Écoutons et puis vous allez nous dire ce que c'est. Alors, qu'est-ce qui émet ce son ?
Alors, c'est un poisson. Et que j'ai découvert grâce à une émission, enfin c'est sur Arte, il y avait des bioacousticiens donc qui ont présenté en fait leur découverte et leur recherche sur la rascasse.
C'est des rascasses.
Et j'étais très surpris de voir leurs résultats qui mettaient en évidence en fait ces sons très particuliers qui mettent les rascasses sur leur territoire. En fait, les mâles poussent les autres mâles. Par ces sons particuliers.
C'est souvent ça, c'est souvent une histoire de territoire, les chants d'oiseaux.
Et de séduction.
Voilà. Dans un instant, on va s'intéresser à d'autres sons mystérieux qui vous ont intrigué, Fernand Derossen. Pour certains, le mystère n'a d'ailleurs pas encore été résolu.
Sweet memories of yesterday. Which ones will go? Which ones will stay?
Et Clinton Ferron chantait Guiding Star sur France Inter dans le temps d'un bivouac. Et merci à Djoubaka pour la programmation musicale.
Sur le chemin de la cascade de São Nicolau, sur l'île de São Tomé, au large du Gabon. C'est la petite saison sèche. Et le vent a soufflé toute cette journée de janvier sur la forêt tropicale. Nous avons posé nos micros dans un lieu un peu à l'écart, sur une ancienne piste forestière. À la tombée de la nuit, les premières chauves-souris frugivores arrivent bruyamment dans les manguiers pour se nourrir. Dans la forêt, une chouette effraie pousse aussi des soufflements en s'éveillant. Mais d'autres sonorités inédites se révèlent lorsque la nuit s'est complètement installée. Un rythme saccadé monte crescendo dans le sous-bois. On dirait une grenouille. Au bout de deux nuits, intrigués, nous essayons d'en avoir le cœur net. La surprise est totale. À la lumière de la torche apparaît un insecte étrange. Une sauterelle en forme de feuille. ses deux ailes dressées se frottent et font caisse de résonance pour produire ce chant étrange.
C'est un extrait de la série de podcast « Pur, que dit la nature » à retrouver sur le site de France TV. C'est vous qui avez enregistré le son produit par cet insecte en forme de feuille, Fernand Desroussen. Pendant plusieurs jours, vous vous êtes demandé ce que vous étiez en train d'enregistrer.
Exactement. Dès que je suis arrivé sur l'île de Sao Tomé, dès le soir, là, pouf, ces sons retentissaient d'un peu partout. Et très vite, un des habitants me dit « Ah bah c'est les grenouilles ». Puis, bon, c'était un peu étonnant. Et il m'aura fallu quand même 4 jours pour dire à un moment « Et bon, je vais essayer de la voir, cette grenouille, et la photographier. » Et puis, j'étais avec un vidéaste et la filmer. Et puis, quelle surprise quand, en fait, je me suis aperçu que c'était pas du tout une grenouille, mais vraiment une sauterelle, une très très belle sauterelle, toute verte, vraiment de forme d'une feuille, qui était toute gonflée et qui émettait ses sons avec une puissance incroyable.
Ouais, mais c'est là où votre travail, avant tout plutôt artistique, de transmission au grand public, de la beauté des sons de nature, commence à intéresser les scientifiques.
Oui, tout à fait. Oui, parce que donc moi je suis audio-naturaliste, c'est-à-dire que je travaille sur l'art des sons de la nature, sur la contemplation, sur l'émotion que procurent les sons de la nature. Mais à côté de ça, il y a une autre discipline scientifique assez extraordinaire qui est pratiquée par beaucoup de laboratoires en France, qui est la bioacoustique. Mmh. Et là, la bioacoustique, c'est la science des sons de la nature, ouais, qui va comprendre ce que les animaux émettent, pourquoi leur contexte dans le paysage, dans individuellement et tout ça.
Mais là, en l'occurrence, cet insecte, c'est une espèce qu'on ne connaissait pas ? On a découvert cette espèce ?
Oui, pour le moment, il n'y a pas de scientifique qui a été décrire cette espèce particulière à Sao Tomé. Il faut quand même aller à Sao Tomé, hein, c'est une île perdue au milieu de l'Atlantique.
Mais ça veut dire qu'on peut, par le son, découvrir de nouvelles espèces. C'est un outil vraiment d'exploration de la biodiversité.
Tout à fait, oui, puisque même actuellement, on est un peu en train de décrire des ce qui était des sous-espèces grâce au son deviennent des espèces parce que selon la région, si les champs sont différents, ils ne se reconnaissent déjà plus, ils ne se reproduisent déjà plus ensemble. Donc ce sont déjà de nouvelles espèces.
Alors il y a certains sons dont la provenance n'a pas été identifié. C'est-à-dire que ça vous arrive encore d'enregistrer des sons et de ne pas savoir ce que vous avez au bout du micro. Parmi vos X-Files, Fernand Desroussen, il y a ce son enregistré au Swaziland, en Centrafrique. À ce jour, vous n'avez...
Je ne sais toujours pas si c'est un insecte, si c'est un oiseau, ou si batracien, ça serait étonnant parce que ça avait l'air de se déplacer assez rapidement. Donc ça doit être un insecte ou un oiseau au lever du jour, donc il fait dans la pénombre. Dès qu'il faisait jour, c'était fini, j'entendais plus ce son. Et je n'ai jamais pu identifier ce son.
Alors si les auditeurs, il y a peut-être des spécialistes parmi nos auditeurs, s'ils ont une idée, ben, ils nous envoient sur franceinter.fr ou sur Facebook ou sur Instagram, et puis on vous transmettra.
Ah ben ça sera avec plaisir, oui.
Ouais. Vous avez fait don d'une banque de sons absolument monumentale, 40 000 sons, je crois, voilà. Au Muséum National d'Histoire Naturelle.
Voilà, à la Sonothèque, en 2005, devant les sons qui s'accumulaient, je me disais quand même, je ne peux pas laisser cette matière simplement sur des disques durs. Il faut qu'il y ait quand même d'autres personnes, notamment les scientifiques, qui s'accaparent cette matière pour en faire des études ou des recherches. Mmh. Et donc, dès lors, j'ai commencé à déposer mes sons. Et depuis, d'ailleurs, Jean-Claude Rocher a fait la même chose il y a 2-3 ans. Et depuis, beaucoup d'autres auteurs ont fait la même chose.
Alors, on s'en rend compte, en vous écoutant, on est loin d'avoir fait le tour de la richesse sonore du monde vivant. Il reste plein de choses à découvrir. Reste à savoir pour combien de temps encore. En près de 30 années d'enregistrement, avez-vous entendu les paysages sonores de nos régions changer, Fernand Desroussen ?
Oui. Énormément. Il y a un autre bioacousticien qui s'appelle Claude Chapuis, à qui je rends hommage, qui est décédé l'année dernière, qui disait comme ça, dans les années 60, où qu'il pointait sa parabole, il enregistrait un oiseau. Dans les années 2000, où qu'il pointait sa parabole, il enregistrait un moteur. Donc on est passé en fait en moins de 30 ans du monde sonore de la nature au monde sonore de la pollution sonore, enfin de la rumeur des hommes.
Mais est-ce qu'il y a des chants d'oiseaux qu'on n'entend plus, des oiseaux qui ont disparu de nos campagnes, de nos régions ?
Oui, il y a beaucoup d'insectivores, notamment, bon, on connaît les conséquences des produits phytosanitaires, de la chasse et du braconnage en Afrique et tout ça. Donc le pouillot siffleur, par exemple, qui était très commun dans toutes nos forêts dans les années 70-80, est devenu relativement rare.
Rendons-lui hommage, voilà le chant du pouillot siffleur.
Cette petite bille qui rebondit.
Inversement, est-ce qu'il y a des chants d'oiseaux qui sont apparus dans
la région ? Oh là là, oh que oui.
Ouais.
Je prends toujours pour exemple le bois de Vincennes, où j'aime revenir et où j'ai commencé l'ornithologie à l'âge de 12 ans. Les perruches à collier se sont installées maintenant de partout et ça crie pas, ça braille.
Le braillement d'une perruche. Ça, ce sont des espèces invasives qui n'étaient pas là et qui s'installent.
Qui se sont installées, qui ont trouvé en fait dans les parcs et jardins de quoi se nourrir, parce que toutes les essences exotiques d'arbres où nos propres oiseaux ne viennent pas manger, ne viennent pas se nourrir, ne connaissent pas ces arbres. Elles connaissent ça puisqu'elles viennent d'Inde et d'Asie et elles retrouvent dans ces plantes-là de quoi se nourrir et se développer.
Il y a un paradoxe tout de même. Ces sons, on y est sensible. Hein. Ils nous étonnent, ils nous amusent, ils nous émeuvent. Peut-être que sur Terre, nous sommes l'espèce qui prête finalement le plus attention. Et en même temps, nous sommes l'espèce qui est en train de chambouler absolument l'ambiance sonore de la planète.
Oui, exactement. Parce qu'avec notre propre activité, c'est vrai qu'on dégrade les paysages sonores, notamment. Et surtout, on fait disparaître la biodiversité. Et ça, c'est le plus terrible. Parce que chaque espèce qui disparaît, c'est une langue, c'est des voix. C'est des sons, c'est des bruits qui disparaissent, qui font partie de cette grande symphonie du vivant. Il faut dire aussi qu'au fur et à mesure des millions d'années, ça a toujours été le cas. Mais là, ça prend une proportion incroyable, quoi.
Et vous le disiez pourtant, à notre connaissance à ce jour, c'est un phénomène absolument unique dans l'univers, hein, ces ambiances sonores.
La Terre est une planète qui chante. Et pour le moment, il y a des radiotélescopes qui sont pointés partout dans l'univers. Et on n'a pas encore de traces d'autres sons. Et le peu de sons qu'on a d'ailleurs, c'est des sons de Mars ou de Vénus. Et qu'est-ce qu'on a ? On n'a qu'un souffle de vent, c'est tout.
Prenons soin de nos ambiances sonores et de ceux qui les produisent. Et
découvrons-les. Réécoutons-les.
Merci Fernand Desroussen. On a mis quelques photos de vous sur le terrain avec vos étonnants micros sur notre page Instagram. Pour en savoir plus sur vos activités et écouter vos enregistrements, je recommande votre site internet naturophonia.com que nous allons mettre en lien sur la page de l'émission sur franceinter.fr, ainsi qu'un lien vers la série Pure, écouter la nature, écouter sur le site de France TV. Un grand merci à vous Fernand Desroussen.
Merci à vous.
Le temps d'un bivouac replie sa tente, pas définitivement, mais pour un petit moment. Comme je vous l'avais annoncé, la version hebdomadaire de l'émission ne reviendra pas à la rentrée, mais il y a de grandes chances qu'elle revienne l'été prochain. En attendant, pendant l'année, je vous proposerai plusieurs séries de podcasts en lien avec l'aventure et le voyage. Les premiers épisodes devraient être disponibles à partir du 8 novembre prochain. Je vous tiendrai au courant sur les pages Facebook et Instagram du Temps d'un Bivouac. Avant de plier bagages, je tiens à remercier toute l'équipe qui a œuvré en coulisses, les attachés de production Sophie Vaux, Claire Tesser et Thomas Lehété pour leur minutieux travail de préparation. Merci à Stéphanie Texier et Étienne Bertin d'avoir si joliment mis en onde nos voyages à travers le monde. Merci aussi aux programmateurs musicaux, aux équipes techniques et à celles de la documentation. Et enfin, un immense merci à vous, amis auditrices et amis auditeurs, de nous avoir suivis dans nos pérégrinations estivales. Vous avez été des compagnons de route formidables. Vos nombreux messages ces dernières semaines m'ont fait chaud au cœur. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle rentrée. Dès lundi, vous retrouverez à 14h Mathieu Vidard et Camille Cronier pour une nouvelle saison de La Terre au Carré. Quant à moi, je vous donne donc rendez-vous le 8 novembre prochain pour une première série de podcasts. À bientôt donc pour de nouvelles aventures.